Chers auditeurs, vous êtes bien sur Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois et nous enchaînons cette session spéciale intitulée Écouter Wagner et envahir l'Iran avec la question plutôt wagnérienne de cette part de la question. Nous avons la joie, le plaisir d'accueillir Stéphane Giocanti. Stéphane Giocanti, bienvenue. Merci de votre présence. Vous êtes professeur, romancier, essayiste, critique littéraire, membre de la Société des Faits Libres de Paris. Nous n'avons pas n'importe qui comme invité, nous avions un chevalier du Saint-Sépulcre, nous avons un authentique fait libre. Vous avez notamment offert au monde francophone des biographies et essais décisifs sur Charles Maurras, Pierre Boutang, Jules Laforgue, T.S. Eliot, Frédéric Mistral, Alphonse Léon et Lucien Daudet, ou encore Yukio Mishima. Par ailleurs, vous êtes intéressé au rapport spécifique que les Français entretiennent entre la littérature et la politique. Vous avez écrit 3 romans avant Le chemin de Ceylan, qui est le 4e donc, et qui vient de paraître ce printemps aux éditions du Flore. Je vais le montrer comme ça aux éditeurs. Pardon, je remercie Rémi d'être un associé aussi efficace. Vous y mettez en scène, au fil d'un roman épistolaire, une année supplémentaire de la vie de Richard Wagner, qui ne serait donc pas mort le 13 février 1883 à Venise, mais sauvé par les médecins dépêchés par Louis II de Bavière, aurait survécu et aurait profité de ce sursis inespéré pour se rendre en Asie et rencontrer ce bouddhisme qui l'avait toujours fasciné. Cette étrange uchronie est l'occasion de méditer, bien sûr, sur vos thèmes de prédilection, avec la finesse et la virtuosité qui sont les vôtres, le rapport Orient-Occident, ceux entre philosophie, politique et art, entre les grands hommes et leur époque, entre la modernité et la tradition, un roman pluriel, polyphonique, aux enjeux profonds, mais à la composition alerte. Cela dit, avant d'y revenir avec vous, nous allons faire un détour par le rendez-vous obligatoire de nos invités, la question.
Ne perdons pas notre temps.
Ils peuvent me tuer, je parlerai pas.
Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas.
C'est vous.
Ah, c'est comme ça. Nous avons les moyens de vous faire parler.
Cher Stéphane Giocanti, quelle fut votre première révélation esthétique ?
Au cours d'un feu d'artifice à Hérissy-sur-Seine, lorsque j'ai entendu le prélude de l'acte 3 de Lohengrin, de Wagner.
Et c'était à quel âge ?
Assez tôt. Je n'ai pas le souvenir de la date.
On imagine l'aspect authentiquement fulgurant d'une telle révélation. Votre rapport à la politique est-il musical ?
Évidemment, les deux domaines sont extrêmement différents, mais en politique, il y a des questions qui trouvent des analogies dans l'écriture musicale. Par exemple, l'harmonie. L'harmonie, c'est la science des accords. C'est aussi un problème politique. Et puis, ce que j'appellerais l'interdépendance en politique, c'est-à-dire le fait que les membres d'une communauté soient interdépendants entre eux, ça c'est ma théorie, qu'ils le veuillent ou pas. Et cette interdépendance, on la retrouve au sein d'un orchestre. Bien sûr, il y a également le temps et la durée qui sont en commun entre la politique et la musique.
Quel est votre roi préféré ?
François Ier, parce que c'est le roi le plus odysséen.
Et pourquoi pas Louis XIV, alors, par rapport à la musique, non ?
Non.
J'ai
justifié mon roi par Ulysse.
C'est une justification largement suffisante, je suis d'accord avec vous. Quel pays l'écoute de Wagner vous donne-t-elle envie d'envahir ?
Les Enfers, par compassion.
Quel est le plus grand opéra du monde ?
Tristan et Isolde.
T'es vert ou t'es noir ?
Le Genmatcha.
Jésus ou Bouddha ?
Bouddha avec Jésus comme Bodhisattva.
Le point commun entre le Japon et la France ?
L'amour des bons repas et des bouquets en fleurs.
Le point commun entre le Japon et l'Allemagne ?
La négation de l'ego et du moi, dont on trouve chez Schopenhauer et chez Heidegger d'un côté, et puis pour le Japon, le zen et l'école de Kyoto.
La spécificité japonaise la plus incompréhensible pour un Européen ?
Les niveaux hiérarchiques dans l'expression orale et écrite. Donc il y a le style humble et le style respectueux. Et ça, c'est une verticalité qui terrifie nos concitoyens égalitaires.
Est-ce que c'est toujours, d'ailleurs, j'en profite pour... C'est toujours d'actualité
Ah bien absolument. C'est-à-dire que lorsqu'on entre dans une grande librairie au Japon, ça c'est une chose qui m'a toujours frappé, il y a à peu près 2 ou 3 mètres de rayon avec des brochures, des livres, pour expliquer surtout aux jeunes salariés tout ce qu'il faut savoir sur sur tous les codes de politesse, comment donner sa carte de visite, comment recevoir celle de l'autre, comment s'adresser à un supérieur, comment s'adresser à un subalterne, etc. etc. Et si ces codes-là ne sont pas respectés, on est immédiatement très très mal vu. Et au pire des cas, on peut même être renvoyé, limogé.
Ah, quelle belle manière de penser l'espace social. L'œuvre non écrite ou non composée par un génie que vous regrettez le plus ?
Eh bien, un traité sur l'économie que Pierre Boutan voulait écrire pour compléter la politique considérée comme un souci en 1948. Dans sa préface, il dit qu'il voudrait écrire un traité d'économie humaniste. Malheureusement, il n'a jamais pris le temps de l'écrire.
Merci, Stéphane Jocanti. Maintenant, nos éditeurs vous connaissent un petit peu mieux. En tout cas, pour commencer cet entretien, j'aimerais vous demander, vous qui êtes un grand biographe, pourquoi vous n'avez pas tenté finalement d'aborder Wagner par une grande biographie de référence ou un essai, puisque finalement vous avez fait pas forcément des biographies, mais aussi sur Yukio Mishima, par exemple, c'était plutôt un essai. Pourquoi vous êtes passé par ce biais du roman et même du roman uchronique ?
Eh bien, je trouvais ça beaucoup plus amusant, parce que les biographies, je commence à fatiguer par le travail que ça demande. Et puis, de toute façon, les choses ne se sont pas passées comme ça. Ce livre est notamment c'est le résultat de toute une germination que je n'évoquerai pas ici, mais disons que le point, l'étincelle, c'est une conversation téléphonique avec Frédéric Rouvillois, qui me parlait de la suite qu'il allait donner à un roman de Léon Daudet, et il m'en parlait avec une joie enfantine qui m'a envahi aussitôt, et je me suis dit, ben, pourquoi pas faire quelque chose de différent, évidemment. Mais, donc là, c'est un roman uchronique qui donne à peu près une année de plus de vie à Wagner. Wagner lui-même dit dans le journal de Cosima, il dit que tous les grands génies meurent trop tôt. Et donc j'ai voulu prendre au mot et lui donner une seconde chance.
Voilà, et Wagner est tellement visionnaire qu'il prévoit lui-même sa mort trop tôt de génie, ce qui est très wagnérien.
Je n'ai pas dit cela.
Non, mais on imagine bien Wagner penser ça de lui-même. Alors dans ce livre, justement, c'est pour ça que je vous posais cette question sur l'œuvre non écrite ou non composée que vous regretterez, parce que vous lui faites composer Les Vainqueurs, qui était un opéra qu'il avait prévu, oui. Qui n'a pas eu le temps en fait de composer et qui aurait exploré justement son intérêt pour le bouddhisme.
Alors ce qui est très frappant, c'est que Wagner a défini tous ses sujets très tôt, c'est-à-dire dans les années 1840, 1850, quelques autres encore après. Il avait aussi comme idée d'écrire un Jésus, dont il reste un scénario en prose, qui date de 1849, je crois. Et donc, en 1855, on lui a offert l'introduction à l'histoire du bouddhisme de Eugène Burnouf, qui est un texte absolument colossal et qui a révélé toute une pensée, toute une religion, etc. Et Wagner a été complètement saisi par cela, et il y a trouvé un extrait d'un texte dont il a résumé un récit, donc il a résumé dans une lettre à Franz Liszt. Donc on connaît l'argument. En revanche, il ne l'a jamais composé parce que d'abord il s'est mis à Tristan et Isolde, donc c'est une autre histoire. Et puis, à la vérité, sachant que Parsifal en 1882 serait sa dernière œuvre, ce coquin de Wagner a utilisé certaines de ses intuitions dans Parsifal. Des intuitions destinées au vainqueur, dit Sieger en allemand, et même il y a même une parole de Brunhilde à la fin du Crépuscule des dieux qui ne peut s'expliquer que par la clé bouddhiste. Donc, parce qu'il savait, qu'il n'aurait plus pour très longtemps, parce qu'il souffrait beaucoup à la fin de sa vie. Il était très, très, très malade.
Oui, c'est ce qu'on imagine peu en général, parce qu'on voit chez Wagner une influence néo-gothique, enfin assez typique d'ailleurs du romantisme, un retour contre la Renaissance, contre les antiquités très françaises, un retour à l'imaginaire médiéval, à la matière de Germanie comme à la matière de Bretagne, oui, et ouais. En fait il y a une grande influence bouddhiste qui est aussi un peu commune à l'époque, parlez-nous de ça, parce que Schopenhauer était intéressé par le bouddhisme, et puis il y a tout un mouvement à ce moment-là.
Mais permettez-moi de corriger quelque chose. Wagner, alors c'est vrai qu'il était anti-français, ça c'est certain, il est odieux par rapport aux Français et par rapport à la France, mais par rapport à la culture classique, notamment grecque, c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien Sophocle, Euripide, Échille est l'un de ses modèles. Donc il n'y a pas un refus chez lui de ce qu'on peut appeler les humanités. Il faut savoir que Wagner est l'un des compositeurs les plus célèbres, mais c'est aussi l'un des moins connus et l'un des plus caricaturés. C'est-à-dire que de sottises n'a-t-on pas dit sur Wagner, tout simplement parce qu'on ne l'a pas lu. Je ne dis pas que tout est formidable et qu'il faut, boire Wagner comme un bébé boirait goulûment son biberon, mais enfin, il y a des limites et on déforme souvent sa pensée. Et le fait même que beaucoup de gens ne savent pas qu'il a été un penseur. Ce n'est pas seulement un compositeur, c'est aussi un penseur qui sait discuter dans certains textes avec Kant, avec Schopenhauer, avec Lessing, etc. Donc vous voyez, c'est un homme qui pense. D'ailleurs, son amitié avec Nietzsche, l'intérêt que Nietzsche a eu pour Wagner, s'explique aussi par cela.
Vous faites intervenir, d'ailleurs, c'est ça qui est passionnant d'ailleurs dans votre livre, et qui est de l'ordre d'un vrai exercice de style périlleux et accompli avec grâce. Vous faites intervenir Liszt, Nietzsche, Louis II de Bavière, en fait, tous les personnages les plus, les plus remarquables, les plus spectaculaires de l'entourage de Wagner. Vous leur donnez une voix, parce que comme c'est un roman épistolaire, ils ont chacun leur voix. Et bon, du peu moi que j'en connais par exemple, je les reconnais. On sent bien le style de Nietzsche et son tempérament, comme celui de Wagner, comme celui de Liszt. Comment vous avez procédé pour ressusciter comme ça ces personnages, leur ton, leur manière de s'exprimer?
Eh bien, certainement, je ressemble à une éponge, c'est-à-dire qu'en lisant les pièces...
Nous protestons tous.
En lisant des lettres de Liszt, alors je me suis mis à faire du Liszt, en lisant Nietzsche, etc. Bon, alors aussi, le fait dans ma vie, j'explique de très nombreux textes littéraires, notamment pour des jeunes gens. Donc, je repère assez vite les caractéristiques d'un style, les manières de l'écriture de quelqu'un. Et donc, mais ça a été surtout un grand plaisir. Je n'ai pas senti le travail. Si vous voulez, c'était un plaisir un peu coquin, parce que je me suis retrouvé au bout de ce livre, j'ai dû m'avouer être un faussaire, parce que tout est faux.
Et tout grand romancier est un faussaire.
Et tous les romanciers sont des faussaires, mais alors là je vais très loin puisque je signe.
C'est vrai.
En plus,
vous assumez,
aggrave mon cas.
Richard de Sèze.
Ce que je trouve très aimable, c'est d'une part, il y a ce côté absolument adolescent et jouissif. Et alors, qui recevrais-tu à dîner si tu avais le choix? Et donc, vous, carrément, Liszt, Louis II de Bavière, Nietzsche, allez, venez tous. Et donc là, il y a ce côté, vraiment, l'amateur à qui on donne les clés du paradis, qui va aller tout de suite courir vers les gens qu'il aime. Et il y a aussi cet argument que je trouve excellent et qui se rapproche d'une nouvelle de science-fiction qui était absolument épatante, où un milliardaire invente le voyage à remonter le temps uniquement pour aller pêcher au XXe siècle un écrivain américain mort trop tôt, afin qu'il puisse décrire la conquête spatiale, parce qu'il considère que seule l'écriture d'un John Dos Passos est capable de rendre compte du 25e siècle et de Mars. Et je trouve que c'est exactement la même idée. En fait, vous vous dites, mais c'est vraiment trop bête. Ressuscitons Nietzsche, parce que voilà, après tout, il n'a pas dit tout ce qu'il avait à dire. Et ce qu'il nous dirait aujourd'hui sur le bouddhisme et sur ce rapport entre l'Orient et l'Occident, on est en train de rééditer les Guénons chez Leaf, est nécessaire. Et il vaut mieux que ce soit Nietzsche qui nous le dise, parce que c'est une voix autorisée.
Oui, oui. Enfin, pour le coup, c'est surtout Wagner qui en parle.
Oui,
Wagner. Ce qui est très intéressant, et que peu de gens savent, c'est que alors, tout le monde sait plus ou moins que Schopenhauer a exercé une influence sur Wagner, surtout pour la période, de Tristan et Isolde, mais c'est que Wagner a mieux compris le bouddhisme que ne le faisait Schopenhauer. Puisque Schopenhauer, lui, il a compris que le bouddhisme aidait à guérir de la vie, comme si la vie était une maladie, alors que le bouddhisme vise à guérir des maux dont on souffre dans la vie. C'est différent. Alors ça, c'est une des différences que Wagner a très très bien compris. Il faut dire qu'il a lu... Il a lu d'autres ouvrages que Burnouf, hein, notamment l'ouvrage capital de Hermann Oldenburg, qui continue d'être une référence d'ailleurs, qui date de 1880. Et c'est vrai que là, je le mets au palis sur le bateau qu'il envoie vers Ceylan, mais je pense qu'il aurait probablement... peut-être pas appris vraiment le pali, mais en tout cas, il en aurait appris un certain nombre de termes. Parce qu'il voulait... c'est de l'imagination, ce roman, mais j'ai voulu aussi travailler selon la règle de la probabilité. C'est-à-dire qu'étant donné ce que je savais sur Wagner, j'ai voulu tirer les fils vers l'avant, vers le futur, pour l'amener plus loin et voir aussi quelles difficultés il rencontrerait.
Rémi Carlu.
Oui, vous dites que Wagner a été saisi par la lecture du livre de Burnouf, la découverte du bouddhisme. Qu'est-ce qui, dans le bouddhisme, l'a particulièrement intrigué ou intéressé ?
Alors, la compassion, puisque toutes les œuvres de Wagner tournent autour de ça, un peu comme c'est un point commun qu'on peut trouver avec Victor Hugo. Et donc, il a trouvé l'expression de la compassion. Et il y a aussi, c'est ça qui est assez drôle. Par contre, il était attiré par l'ascétisme du bouddhisme, alors que lui était absolument le contraire d'un ascète. Mais c'est souvent le cas. Vous savez, on est souvent attiré par son contraire. Donc il y a ça. Il y a des tas de textes où il exprime sa fascination. Il en parle même comme de la religion de l'avenir. Et en même temps, il a les pieds en Allemagne. Il est luthérien de formation. Enfin. Il a été construit intellectuellement par le luthéranisme. Il connaît très bien les évangiles. Il a une certaine vénération, on peut dire, pour Martin Luther. Mais il était, un peu au-delà des catégories, si vous voulez. Donc c'est pour ça que dans Parsifal, par exemple, c'est très très étonnant parce que c'est un opéra. Un drame lyrique plutôt, qui se nourrit de racines chrétiennes évidentes, hein, puisque ça s'inspire notamment du roman du Graal de Robert de Boron, et puis du Parsifal de Wolfram von Eschenbach, qui est un chef-d'œuvre que je recommande aux auditeurs de lire. C'est disponible chez Champion avec une traduction absolument remarquable, et c'est un roman vraiment capital. C'est une très grande œuvre de la littérature européenne. Et Wagner avait un esprit de synthèse, en quelque sorte. Alors, la synthèse, elle ne nous satisfait peut-être pas intellectuellement, puisque on se demande comment on peut faire un patchwork de christianisme, de bouddhisme et d'autres choses encore, mais ce qui compte, c'est la musique. C'est-à-dire que la musique... Elle trouve, Boutan disait que la musique c'était de la transcendance formelle, et bon, l'expression est évidemment très, très forte et très, très intéressante. La musique va au-delà de la raison, et ça Wagner le savait parfaitement.
Justement, il y a des mésinterprétations de Wagner, dont le titre de cette émission est d'ailleurs peut-être un exemple typique. C'est-à-dire que quand Woody Allen dit que Wagner donne envie d'être belliqueux, il se rapporte, cette boutade évidemment fait référence à Adolf Hitler, autre grand wagnérien dévoyé, qui était complètement fan de Wagner, qui a donné un peu cette caricature de Wagner. Or, quand on écoute Wagner, me semble-t-il, c'est ce que disait d'ailleurs aussi un peu notre premier intervenant, c'est pas une musique très belliqueuse, c'est une musique très cosmique, assez fascinante, mais quelque part, Verdi vous donne beaucoup plus envie d'aller frapper sur votre voisin que Wagner. Et vous avez une phrase, alors je ne l'ai pas la notée, mais dans votre livre, qui est très belle, notamment dans une formulation bouddhiste, justement, sur la musique de Wagner, dans un certain rapport au néant et au concept bouddhique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette dimension de wagnérienne?
Bah alors, sans entrer dans un problème métaphysique que je ne veux pas révéler ici à l'auditeur pour ne pas compromettre l'intérêt de la lecture, je reviens à ce thème de la compassion. Parce que, évidemment, il est fondamental dans le vaisseau fantôme, si Senta se précipite pour rejoindre au dernier moment le Hollandais qui est maudit, c'est pour obtenir son salut. Alors, c'est le sacrifice par amour. Même chose pour dans Tannhauser, où c'est Elisabeth qui meurt en priant pour le salut de Tannhauser. Lohengrin, c'est ce chevalier merveilleux qui vient protéger Elsa parce qu'elle est accusée à tort d'avoir assassiné son petit frère, bon, etc., etc., jusqu'à Parsifal, qui est vraiment alors le drame lyrique de la compassion. C'est un Mitleid en allemand, et c'est une œuvre bouleversante, enfin très très extrêmement belle, très pure. Il était en train de changer, parce que Wagner aussi, ce qu'il y a de prodigieux, c'est que quand il écrivait une œuvre, eh bien après il ne la recommençait pas, il faisait autre chose. Ce que je trouve assez extraordinaire, c'est le fait de passer du Crépuscule des dieux, alors qui est un opéra beaucoup plus lourd, beaucoup plus tendu, très inquiétant, cataclysmique. Bon, étant donné le sujet, ça ne pouvait pas être autre chose. Il passe à Parsifal quelques années après, et au niveau orchestral, c'est totalement différent. Et après avoir écouté des émissions de Jean-Pierre Derrien sur une autre antenne, il y a fort longtemps, je me dis souvent que le Péléas et Mélisande de Debussy est peut-être le dernier opéra de Wagner.
Dans quel sens?
C'est-à-dire que, justement, c'est une hypothèse, peut-être que j'ai tort, mais je pense que Wagner était en train de changer son langage, une fois de plus, et qu'il allait davantage vers une certaine pureté, un certain allègement par rapport aux grosses masses orchestrales précédentes. C'est ce qu'indiquent de nombreuses scènes de Parsifal. Mais ça n'est qu'une hypothèse.
Richard de Sèze.
Évidemment, c'est un roman qui parle de musique, puisque Wagner en est le héros, mais il y a toujours ce côté évidemment fascinant d'une écriture littéraire qui évoque un son absolument inaudible. Comment, en tant que romancier, inaudible parce qu'il n'y a pas de musique, vous n'avez pas cédé à la manie, c'est-à-dire, je suis très surpris, de mettre une bande-son avec un flashcode au début qui permet d'entendre. Non, je plaisante. Et donc, comment est-ce qu'en tant qu'écrivain, vous résolvez, si j'ose dire, cette espèce de partition invisible dont vous nous dites qu'elle s'élabore, on a l'impression que cette œuvre se crée sous nos yeux, vous la créez, mais évidemment on n'en entend rien. Et, à quel moment vous vous êtes dit, tiens, en écrivant ça, il y a peut-être cette musique-là qui va quand même sonner dans l'esprit de celui qui est en train de me lire?
C'est possible, parce qu'à certains moments dans ses lettres, Wagner évoque telle ou telle telle ou telle scène, telle ou telle atmosphère, parce que il disait à Cosima que ce qui lui manquait aussi pour pouvoir écrire ce fameux opéra bouddhiste, Les Vainqueurs, ça renvoie à l'idée de jina chez les bouddhistes, c'est-à-dire des êtres vraiment profondément éveillés. Ce qui lui manquait, c'était l'approche sensuelle, c'est-à-dire il n'était jamais allé dans un pays bouddhiste. Donc, il était dans l'évidence du christianisme parce qu'il était allemand, il vivait en Allemagne, et, bon, un peu en Italie aussi, mais, et un peu en France, mais il sentait le besoin d'aller dans un pays qui fut bouddhiste, et il a exprimé, ça fait partie de ses dernières paroles, il a exprimé le désir d'aller à Ceylan. Donc moi, je l'y fais aller parce que pour lui faire sentir justement cette atmosphère-là, pour l'aider à se diriger vers cette composition ultime.
Chers auditeurs, vous êtes bien sur Restons Courtois, l'émission de Radio Courtoisie. Je vous rappelle que Radio Courtoisie est une radio qui n'existe que par vos dons et celui de l'Esprit-Saint. Elle ne dépend ni d'un groupe industriel, ni d'un milliardaire et encore moins des subsides de l'État. Donc, si vous souhaitez que la radio continue d'exister et se développe, faites un don.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Vous êtes toujours sur Restons Courtois et c'est l'heure de la chronique de Richard de Sèze.
Eh bien, chers amis, je vais vous parler de deux expositions qui n'ont quasiment rien à voir l'une avec l'autre, sinon qu'il s'agit de peintures. L'une au musée Jacquemin-Rondré sur des splendeurs baroques qui nous viennent en fait d'une seule collection états-unienne où quelqu'un a décidé de recueillir des chefs-d'œuvre, notamment espagnols, mais pas que, certaines viennent d'ailleurs d'Amérique du Sud. C'est une plongée dans le baroque qui commence d'ailleurs assez curieusement par deux tableaux flamands qui sont deux portraits d'un homme et d'une femme absolument superbes avec ces détails de parure absolument remarquables. Et l'autre exposition, c'est Martin Schongauer, un peintre et graveur du XVe siècle européen avec une écriture très différente. Je voudrais commencer justement par Martin Schongauer et notamment La Vierge à la Rose, ou plutôt La Vierge au Buisson de Rose, qui est une œuvre jolie comme tout. Voilà, c'est le commentaire le plus plat qu'on puisse en faire. C'est une œuvre en fait monumentale, une grande Vierge qui tient l'enfant Jésus dans ses bras sur un fond doré et avec des rosiers qui montent en espalier, des petits anges, une multitude d'ailleurs d'oiseaux charmants. Il y a un vérisme, il y a une volonté de réalisme, on est presque dans l'hyper-réalisme avec juste 5 siècles d'avance. Et l'enfant Jésus qui tient sa mère enlacée est évidemment attiré vers les oiseaux et on sent que son regard s'égare vers eux. La Vierge, elle, est concentrée sur quelque chose qu'elle seule voit. Elle ne nous regarde pas, elle regarde vers le bas avec un visage un peu pensif et un peu douloureux. Schongauer est un graveur absolument remarquable, est un peintre non moins remarquable. On peut s'attarder, on peut approcher du tableau, on peut prendre une loupe, on peut aller admirer le dernier des rouges-gorges, les détails de la chevelure, les chairs potelées de l'enfant. Ce qui retient surtout, au bout du compte, c'est cette Vierge, la tête baissée, le regard détourné de son fils. Ils sont tous les deux en train de regarder dans deux directions différentes. L'un sourit, l'autre pas du tout. Et on sent que la Vierge, en fait, contre ce buisson de rose, évidemment avec ses épines, est en train d'avoir presque la prescience en fait, de la manière dont son fils, un jour, va mourir déchiré par les épines. Il y a d'ailleurs en ce moment, si je ne m'abuse, au château de Chantilly, une Vierge à l'enfant au chardonneret. Et donc le chardonneret, vous savez, c'est cet oiseau qui se nourrit de chardon. Et donc l'enfant Jésus tient un petit chardonneret dans ses mains. Et donc le fait qu'il tienne cet oiseau-là précisément est là aussi comme une prescience de son destin d'avoir la tête déchirée par les épines. Et voilà, c'est d'abord un petit oiseau, ce n'est qu'un buisson de rose. Et en fait, il y a une profondeur évidemment mystique que Schongauer réussit à suggérer avec ces tableaux qui, évidemment, demandent une attention extrême. Alors, on n'est pas dans la mystique de ces peintres contemporains avec des taches de couleurs et on nous dit que c'est une peinture métaphysique comme Robert Soulages. Là, c'est une peinture extrêmement physique, mais justement métaphysique. Il faut se demander pourquoi. Il faut se demander pourquoi chaque pétale, pourquoi chaque oiseau, pourquoi cet espalier. Et évidemment, invinciblement, c'est le visage de la Vierge, bien sûr, qui une fois de plus est la médiatrice, médiatrice de la grâce, mais médiatrice vers l'enfant Jésus, médiatrice vers le mystère de Sainte Incarnation, qui nous dit en fait, comment est-ce qu'il faut penser ce jardin, ce clos, cette espèce d'endroit baigné de lumière avec cette belle couleur dorée qui est en fond, qui illumine tout le paysage, qui est presque comme ce paradis juste derrière le buisson de rose. En fait, le paradis s'ouvre. Eh bien non, avant le paradis, avant cette porte déjà ouverte, il y a toute la passion des roses, il y a cette nécessité de la mort. Et l'autre œuvre, elle, vient donc du musée Jacques Marandré. Alors, il y a mille choses, et notamment des tableaux absolument stupéfiants qui sont entièrement décorés de nacre. Et donc, ce sont des tableaux encoquillés. Je traduis peut-être mal le terme espagnol. Et ce sont des tableaux qui sont rutilants. On ne se contente pas de peindre. Ensuite, on applique des couches de nacre pour faire en sorte que le tableau soit absolument illuminé. Avec d'ailleurs, sur d'autres tableaux dans la même salle, des applications dorées qui sont parfois un peu maladroites. C'est comme s'il y avait un film d'or qui était plaqué contre la peinture. Mais ce qui m'a particulièrement retenu, c'est un tableau dans la dernière salle de Luca Giordano, l'extase de Sainte Marie-Madeleine. Sainte Marie-Madeleine est en extase, les épaules nues, les cheveux dénoués comme ceux de la Vierge, mais au lieu que la Vierge regarde vers la terre, Sainte Marie-Madeleine, elle, en extase, regarde évidemment vers le ciel. Les deux tableaux se répondent d'une certaine manière, je suis vachement malin, c'est un vrai parallèle que je suis en train de dresser. Et il y a évidemment plein de petits enfants qui sont là, qui sont ces chérubins, évidemment pas les kéroubim terribles de l'Ancien Testament, les chérubins qu'on peut peindre à Naples entre 1634 et 1705, et là en l'occurrence en 1665, qui sont des petits êtres grassouillés et blancs et charmants, et qui accompagnent la sainte dans son extase, avec d'ailleurs dans le ciel quelques figures qui sont presque confondues avec les nuages. On a l'impression que les nuages en fait sont en train de former les chérubins et que peu à peu ils se matérialisent et qu'ils vont apparaître pour venir soutenir aussi la sainte. D'ailleurs, dans la traîne de son manteau, il y a un chérubin qui sort de la traîne, et on a presque l'impression dans la pénombre qu'en fait c'est comme un boudin de chair qui est en train de prendre forme. Donc tout ça est un peu stupéfiant, mais il y a surtout en dessous plusieurs chérubins qui tiennent les instruments qui sont les symboles iconographiques de Sainte Marie-Madeleine. L'un tient le fouet avec lequel elle se flagellait, l'autre le pot d'onguent avec lequel elle a oint les pieds du Christ avant les essuyer avec ses cheveux, et le troisième tient une tête de mort. Et ce petit ange qui tient une tête de mort, et en regardant la sainte, qui elle-même regarde le ciel, et évidemment, dans cette verticalité, c'est comme la croix au pied de laquelle, de temps en temps, on nous représente justement un crâne et parfois un tibia. C'est le vieil Adam qui est mort et le nouvel Adam qui est dressé. Et bien là, elle ne regarde plus ce crâne qui lui rappelle ses péchés. Elle est tout entière plongée dans la beauté du ciel, dans la lumière du ciel, avec ces angelots qui se matérialisent autour d'elle et qui sont presque, en fait, moins en train de tirer leur substance des nuages que de la foi de cette sainte. Deux remarquables expositions, et je vous encourage vivement à aller hanter le Louvre et le musée Jacques Marandré.
Merci Richard de Sèze, vous nous en avez mis plein les yeux, par les oreilles, de manière tout à fait virtuose.
Ben, merci.
Cher Stéphane Giocanti, s'il y avait un peintre wagnérien parmi tous les peintres de son époque, est-ce que vous en verriez un ?
Il y en a un, mais j'avoue ne plus me souvenir de son nom. De la fin du 19e siècle.
Oui. Vous parliez de Bussy, de la dernière manière wagnérienne. Je pensais, à cause de l'actualité, à Philippe Glass, qui est un compositeur qui s'est aussi beaucoup intéressé à l'Orient et qui se déclarait lui-même bouddhiste. Alors bon, c'est les années 60-70 américaines, on est un peu dans un ensemble New Age, on ne sait pas à quel point son bouddhisme est sérieux ou crédible, mais enfin en tout cas il s'est beaucoup intéressé à ça, et justement ce printemps, il y a deux ou trois semaines, je crois que c'est son opéra Satyagraha, qui est une apologie de Gandhi, on peut dire, qui a été joué à l'Opéra de Paris, et qui a à l'Opéra Bastille, je crois, et qui a suscité des réactions toutes neuves, telles qu'on les imagine aujourd'hui, évidemment, que le progressisme bouddhiste des années 70 n'est plus très à la mode, puisqu'on a accusé Philippe Glass d'appropriation culturelle. Alors évidemment, tout ça est totalement délirant et invraisemblable, mais qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, à la fois Philippe Glass, dans sa propre manière musicale d'aborder ce rapport Orient-Occident, puisqu'il a essayé de créer des synthèses aussi à sa manière, et c'est cette nouvelle furie puritaine de l'appropriation culturelle.
À vrai dire, je n'ai pas grand-chose à dire pour commenter la bêtise. Si vous avez un sujet plus intéressant, je suis prêt à vous écouter.
Alors, disons, est-ce que la musique sérielle du camarade Glass vous paraît intéressante, ou est-ce que vous avez l'impression qu'elle est elle-même une espèce de décadence absolue par rapport justement à ces grands symphonistes du 19e?
Non, pas du tout. D'abord, je ne la connais pas suffisamment, mais...
Je peux vous chanter un peu.
La musique que l'on écrit aujourd'hui, qu'on appelle bêtement la musique contemporaine, mais ça ne veut rien dire. Il y a des œuvres qui sont intéressantes, et il y a de jeunes compositeurs français. Il y a il y a bien sûr une continuité. Alors il y a aussi des gens qui disent que la musique est morte, c'est-à-dire que le langage musical est arrivé au bout de ses possibilités, etc. Bon, c'est une thèse qui n'est pas la mienne, en tout cas.
Oui, mais il y a la fin d'un cycle, en tout cas peut-être de la musique occidentale, c'est-à-dire du développement de l'harmonie, justement, dont Wagner a été un des derniers sublimateurs. Après quoi, il y a un peu... en tout cas, c'était ce que disait notre regretté ami Benoît Dutertre, par exemple, qui...
Oui, moi, j'ai toujours été stupéfait, pardonnez-moi, vous me regardez, Romaric, je vous réponds, j'ai toujours été stupéfait par ceux qui annoncent régulièrement la mort de la musique, de la peinture, de la littérature. Légèrement, oui, il y a un type qui surnage, c'est celui qui est en train d'écrire sur la mort de la littérature. Je ne vise absolument personne, voilà, qui est le dernier héros de la chose. alors que, enfin, voilà, la seule chose qui est certaine, c'est depuis la musique des Grecs, en passant par les pierres qu'on frappe en Chine et les harmonies parfois un peu surprenantes de Kyoto, voilà, enfin, c'est stupide d'expliquer que quelque art meurt, en fait. Il mue certainement, et parfois il y a des formes. Il y avait les flammes qui récompensaient les personnes du rap et du hip-hop francophone.
Oui, c'est vrai.
Je ne suis pas absolument certain que là on était au sommet de la musique, mais voilà, il n'y a aucune chance que la musique meure, ni la littérature, grâce à vous, Stéphane.
Est-ce vraiment un très bon exemple pour donner preuve de sa vitalité?
Koya Niskatsi, Koya Niskatsi. Voilà, qui était un extrait d'une bande-son de Philippe Glass.
Ah, tout à fait, j'ai reconnu. Mais oui, tout à fait.
Koya Niskatsi, voilà, où là, il s'intéressait plutôt à la culture indienne.
C'est vrai. Il
y a des choses que la musique contemporaine est allée chercher, et c'était pas juste de l'ethnologie. C'est plus intéressant que ce que Béla Bartok a pu faire avec la musique de son propre pays, sous prétexte de revivifier le folklore. Bon, il l'a un peu embaumé à vif, quoi.
Bah, disons qu'il s'agit toujours de créer Vous n'êtes pas d'accord, cher Stéphane?
Non.
On peut transformer tout cela en débat. Vous pouvez répondre des arguments percutants contre Charles XVI.
Il y a eu une époque, à la fin du 19e au début du 20e siècle, donc de Smetana à Bartok, en passant par Vincent d'Indy et plein d'autres, où on a senti la disparition du monde paysan, et tous ces compositeurs se sont mis à la recherche des bergers de leur pays pour qu'ils leur chantent des chants populaires. C'est comme ça que Vincent d'Indy en a noté un assez grand nombre en Vivarais, Joseph Canteloube en Auvergne, Bartok donc en Hongrie, etc., etc. Mais alors Bartok fait quelque chose d'encore plus génial que les autres, puisque non seulement il lui arrive d'utiliser certains thèmes hongrois, mais il lui arrive aussi d'en inventer de toutes pièces. C'est-à-dire que ça a l'air folklorique, hein, ça a l'air très magyar, hein, madyar, faut-il dire. Eh bien, non, c'est de l'invention de Bartok. Et puis, alors, s'il y a un orchestre intéressant par ses couleurs, ses tessitures, sa finesse d'harmonie, c'est bien l'orchestre de Bartok. c'est un très grand compositeur. Alors, je ne dis pas que je l'écouterai tous les jours, notamment pour ses quatuors, qui sont assez sévères, mais il y a des œuvres absolument fondamentales, comme le Mandarin merveilleux, les quatre pièces orchestrales, et puis l'opéra Barbe Bleue, qui est un chef-d'œuvre de la musique et du drame symboliste aussi.
Richard de Sèze est-il mouché ou
de toute façon, Stéphane écoute de la musique en permanence, il en parle admirablement bien. Je voudrais juste faire remarquer que justement ce qui est amusant, c'est dans le génie que vous reconnaissez à Bartok, c'est le fait qu'il invente des motifs. Et ce 19e philologue qui réinvente son Moyen-Âge, ce 19e philologue qui réinvente son peuple, est aussi un 19e qui invente en fait une tradition folklorique. C'est Michel Zinc en a parlé admirablement sur le fait...
Mais cher ami, Bartok est mort en 1945.
Oui, je sais.
C'est pas un homme du 19e siècle, Bartok.
Mais par contre, il est dans la lignée, en fait. Ce sont les derniers soubresauts, justement, de cette invention du peuple du 19e, qui a d'ailleurs débouché sur les nationalistes. Mais c'est mal.
Merci de préciser cela.
Oui, si vous voulez. Enfin, moi, c'est vrai que la recherche du folklore était liée à la recherche de l'identité nationale. Ça, c'est certain, et c'est notamment le cas des Hongrois. Qui ont eu bien du mal à sortir leur tête de toutes les épreuves historiques que leur pays avait rencontrées. Donc, c'est vrai qu'à l'Est, dans les pays d'Europe centrale, la notion d'identité nationale s'est posée d'une manière cruciale au XIXe siècle et encore au XXe siècle. Donc, ceci explique cela. Ce n'est pas du XIXe-isme de la part de Bartok. C'est quelque chose qui est encore très contemporain, me semble-t-il.
Pour rester sur ces idées de folklore et de nations qui se découvrent et qui entretiennent leur mythe et leur identité et leur singularité, des fleurs de cerisier des kamikazes japonais au temps des cerises du joli mois de mai qui commence après-demain, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir allègrement, puisque, cher Stéphane, outre le Japon et Yukio Mishima, vous êtes aussi un fin connaisseur de la Commune de Paris. Alors d'abord, j'aimerais vous demander quel lien on peut faire entre ce culte du cerisier au Japon et la manière dont nous le percevons relié à des moments plutôt saugrenu de l'histoire de France.
Il n'y a aucun lien, simplement il m'arrive de m'intéresser à l'histoire de France et j'ai été assez agacé en lisant plusieurs livres sur la Commune de Paris de voir des déformations, des occultations, etc. etc. Donc j'en ai parler à donc Frédéric Rouvillois qui s'occupe des éditions de Flore, et je lui ai proposé de faire un essai du genre Brulot sur l'historiographie de la Commune. Alors j'ai pris les sept livres les plus récents de la Commune et puis je les ai lus. Je les ai fait mijoter et puis donc je déconstruis la Commune et je pose un certain nombre de questions. Donc c'est une il y a une véritable un véritable mensonge, une escroquerie par rapport à la Commune qui était un désastre, notamment pour les ouvriers. Alors là, vous m'interrogez sur un autre sujet, mais si je me souviens bien, Pierre Milza explique qu'au bas mot, donc il y avait à peu près la moitié de Paris qui était ouvriers ou c'était des ouvriers ou des employés. Bon, sur cette moitié, il y en a au maximum 30% qui ont suivi la Commune. Les autres sont restés chez eux ou ils se sont débinés, comme les bourgeois. Donc, ce n'est pas le peuple parisien en armes, etc., qui a élaboré la commune. Aussi, ce qui est très important, c'est l'histoire du... C'est le 16 mars, hein, je crois, le début de la commune. Tout cela a été préparé par les blanquistes. On a fait passer ça... Certains historiens font passer ça comme une sorte d'explosion soudaine, miraculeuse, du peuple,
etc. Blanqui, pour rappeler nos auditeurs, c'est un socialiste...
C'est un révolutionnaire, fou furieux, mais vraiment fou furieux, qui a passé la moitié de sa vie en prison, d'ailleurs. C'est un homme de conviction qui mérite respect à cet égard, mais qui ne mérite pas des noms de rues, des noms de boulevards, parce que je trouve ça assez lamentable. Mais il avait, et c'est Pierre Milza qui l'explique, 2000 agents répartis surtout à Belleville, etc. Bon, parce qu'il était hanté par l'idée de réseau et de société secrète. Alors, là, tout est dit. Alors, cela plus un certain nombre d'indices dont que j'évoque dans mon livre, ça explique la genèse de cette insurrection. Alors, d'autre part, je parle aussi du carnage final, évidemment, de massacres épouvantables menés par Thiers. Et j'explique, mais ça n'est pas du tout une excuse, mais que la psychose a été créée notamment par la surenchère des journaux communards.
D'accord.
Parce que les journaux communards, régulièrement, exprimaient des menaces, disaient qu'ils allaient faire appel à des, on ne disait pas encore des armes chimiques, mais ça voulait dire ça. Et étant donné que de l'autre côté, à Versailles, on ne savait pas très bien tout ce qui se passait à Paris, on avait peur. Et en plus, les généraux étaient fous furieux parce que en mars, donc, lorsque l'armée a essayé d'aller chercher les canons qui étaient parqués, certains soldats ont sympathisé avec les insurgés. Donc pour eux, c'était une catastrophe. Ils ne voulaient pas revoir cela. Donc il y a deux généraux. Le général Cisset et puis l'autre, dont je perds le nom, qui ont été de véritables bouchers et qui ont probablement même dépassé les ordres du maréchal MacMahon et donc qui ont tué en tout. Alors, moi, jusqu'à présent, j'entendais 20 000 morts. Non, d'après cet historien anglais dont je perds le nom, Richard Tombs, La guerre de Paris, c'est un livre absolument... remarquable qu'il faut lire sur la commune, c'est plus important que mon propre livre d'ailleurs, le livre de Richard Tombs, il dit qu'en tout, l'estimation raisonnable, c'est à peu près 10 000 personnes. C'est beaucoup trop, évidemment, c'est épouvantable. Mais c'est aussi rendu possible par une loi qui datait de 1867 dans le code militaire, c'est-à-dire que tout insurgé armé peut être tué sur le champ.
On a l'impression de se retrouver à Gaza avec les forces de défense israéliennes.
Oui, alors cette loi, évidemment, avec le recul, on ne peut que les discuter, puisque évidemment, vous savez que le fait même d'avoir de la poudre sur les mains vous rendait coupable, et donc quantité d'hommes ont été passés par les armes pour cela. Il y a eu des cours martiales faites d'une manière absolument atroce, ignoble. Enfin, là-dessus, tout le monde ne peut être que consterné, écœuré. Par le point final. Mais le massacre de la commune ne justifie pas la commune elle-même, alors que c'est ce que les historiens font. Ils utilisent, en fait,
les historiens, un martyrologue, quoi.
Disons, un certain nombre d'historiens, complaisants, pas tous, mais ils vont justifier la commune parce que les victimes ont toujours raison, n'est-ce pas? Bon, ça, c'est totalement aberrant. Quand vous pensez que De l'Écluse, le 20 mai, quand tout était fini, c'est-à-dire que l'armée versaillaise est à Paris, ils ont défoncé les 900 barricades qui ont été montées, etc. De l'Écluse fait sonner le tocsin pour demander aux Parisiens de continuer à se battre jusqu'au bout. Ce vieillard qui était ancré dans la Révolution de 1848. Et donc, Pierre Milza raconte que 20 000 personnes se sont présentées, parmi lesquelles une majorité de femmes et d'enfants. Comment expliquez-vous que ce monsieur puisse avoir un nom de boulevard dans Paris ? Je suis consterné. Alors, il est mort dignement, ça c'est sûr. Ce n'était pas un lâche. Hein. Par contre, c'était certainement un criminel pour les raisons que je viens de donner, malheureusement.
Alors, il me semble que vous m'aviez dit aussi que Zola n'était pas un fiévreux communard.
Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire.
Moi, j'étais étonné, parce que dans les mythologies de gauche, justement, c'est
À
la fois...
Oui, mais alors attention, c'est un socialiste.
Oui.
Les communards, ce sont pour les uns des libertaires, les autres, ce sont des marxistes, des communistes et des blanquistes. Ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Hein. Par exemple, ceux qui suivent Blanqui ne sont pas forcément d'accord avec Bakounine. Bakounine qui fait sa propre commune à Lyon, etc. Bon. Donc, ce qui est très intéressant, ce sont les journaux de province. Parce que quand ces événements-là éclatent, les journalistes de province, quel que soit leur positionnement politique, disent « ce qui est étonnant, c'est que nous ne connaissons personne parmi ces gens-là ». C'est-à-dire Vermorel, etc., personne ne sait qui c'est. Les jugements les plus sévères viennent sans doute de François Furet, quand il dit que la commune a été faite par des intelligences très moyennes. Ce qui me frappe, c'est que c'était des gens qui lisaient beaucoup de livres d'histoire, mais qui étaient incapables de lire de la philosophie, d'avoir des vues un peu profondes. Il y avait beaucoup de militantisme chez ceux qu'on a appelés les meneurs. Il y en a qui sont touchants hein, parmi eux. Eugène Varlin, qui était imprimeur, qui était ouvrier, Benoît Malon, qui sortait vraiment d'un milieu social extrêmement pauvre, qui deviendra socialiste par la suite, d'ailleurs, après la Commune. J'ajoute qu'il y a un point commun entre les chefs de la Commune, c'est l'antisémitisme.
Ah oui.
Oui, et ça a été... il y a eu un livre de Marc Crépez sur l'antisémitisme de gauche, où il le dit, d'ailleurs il le cite. J'ai trouvé d'autres éléments à ce sujet. Donc,
Rémi Carlu.
Oui, la Commune, c'est aussi un mythe politique, une utopie en marche. Vous avez touché du doigt un petit peu les différentes familles politiques qui composaient ou qui ont participé à ce mouvement. Quel était leur objectif politique, disons ? Qu'est-ce qu'ils ont essayé de mettre en place ? Et puis aussi, quel était leur objectif sur le plan, vu la situation militaire et intérieure de la France d'alors ? Qu'est-ce qu'ils espéraient, au fond ?
Alors, ça dépend à quelle date. Mais il y a une caricature, c'est lorsqu'ils prennent l'Hôtel de Ville... Avant le mois de mars, hein, donc c'est en janvier, ils prennent l'hôtel de ville. Et selon la pièce où vous trouviez dans l'hôtel de ville de l'époque, qui n'était pas encore incendié, il s'échafaudait des plans totalement différents. C'est-à-dire qu'il y avait les blanquistes d'un côté, il y avait les... Donc il n'y avait pas vraiment de... Alors, ils se rejoignaient quand même sur l'idée de... Alors d'abord, l'anticléricalisme. Alors, tous sont des bouffeurs de curés allègres, ça c'est vraiment un point commun. Ensuite, une certaine idée de commune indépendante. On entre dans les conceptions libertaires, qui ne sont pas forcément inintéressantes politiquement, mais pas dans un contexte tel. Et surtout, avec des gens aussi incompétents, parce que les braves ouvriers qui vont avoir l'équivalent de portefeuille de l'intérieur, mais presque, mais de l'économie, tout ça, évidemment, ils n'étaient absolument pas capables de tenir ce rôle.
Merci beaucoup, cher Stéphane Jocanti. C'était important, il me semble, et le rôle de Radio Courtoisie, de démoraliser un peu le mythe de la commune afin que nos auditeurs ne se perdent pas durant le mois qui vient dans des manifestations déguisées en blanquis. Et n'oublie pas, finalement...
Je voudrais ajouter que personne n'a été innocent dans cette histoire. C'est une faillite collective, la commune. C'est pas les bons et les méchants.
Ah, mais il ne s'agit pas de défendre les Versailles.
Non, mais c'est une faillite collective.
Très bien.
Qui découle de la défaite.
Bon. Et c'était la défaite qu'il fallait réussir à éviter, comme nous l'aurait dit notre premier invité. Merci infiniment, cher Stéphane Jocanti. Je rappelle à nos auditeurs que votre livre très singulier et passionnant, Le chemin de Ceylan, aux éditions du Flore, est disponible sur Internet, dans les librairies.
Oui, sur Amazon.
Sur Amazon, n'hésitez pas, n'est-ce pas, à aller sur Amazon. Voilà, merci à vous. Restons courtois, continue demain et après-demain avec Valeurs Actuelles, avec Boulevard Voltaire. Lundi avec Richard de Sèze.
Avec Pierre-Alexandre Bouclet.
Avec Pierre-Alexandre Bouclet.
Moi, c'est le mardi.
Et mardi avec Richard de Sèze. Voilà, et bien, il me reste à vous souhaiter un joli mois de mai et à vous dire à la semaine prochaine. Avec Arthur de Vatrigan qui aura repris sa place.
Ça suffit maintenant!